qui ne me connaissent pas, je suis Walter Alexandre, marié à Laetitia, père de 3 enfants, membre de cette église, et mon métier, c'est la conduite des trains. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est assez délicat. Et Victor nous a dit, en début de culte, ces histoires de fake news. Et dans le monde, nous avons effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de fake news, des histoires fausses qui ne sont pas vraies. Et la Bible nous montre à un moment donné aussi ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et du coup, aujourd'hui, dans mon thème qui est assez délicat, c'est soit un thème qui est mal compris dans certaines églises, soit mal appliqué par nos assemblées. Et ce matin, je voudrais parler tout particulièrement, nous, alors on peut mettre la première slide, j'aimerais parler particulièrement de la sexualité, et on va faire un petit focus également à un moment donné sur, voilà, sur l'homosexualité. Mais on va parler de la sexualité en global. Ça va ? C'est chaud, hein ? Ouais. Vous comprenez qu'on ne parle pas souvent de la sexualité dans l'Église. Je crois que c'est aussi un thème qu'il faut qu'on puisse aborder. En réalité, c'est venu parce que quelqu'un m'a demandé un jour, il y a quelques semaines, de débunker certaines citations que des influenceurs sur les réseaux sociaux nous donnent. C'est-à-dire que la personne avait du mal à répondre à certaines affirmations que ces influenceurs mettaient en avant. Et je me suis dit que ça serait pas mal de pouvoir un jour en parler, en discuter ensemble sur ce thème-là. Du coup, vous allez voir que je vais faire une prédication, une petite prédication. Bon, petite, tout est relatif, hein. On va après avoir un petit temps, si vous le voulez, où on peut avoir des questions-réponses. Et on essaye comme ça de répondre ensemble à certaines de vos questions, si vous en avez. Et je sais que nos jeunes sont baignés énormément dans ces réseaux sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tournent et qui ne sont pas vraies. Et c'est vrai que avec l'évolution de la société, alors je mets le terme « évolution » entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Il n'y a pas vraiment d'évolution. J'ai entendu certains dire « oui, mais maintenant, on connaît ces choses ». C'est-à-dire que dans le temps, ils étaient ignorants, ils vivaient dans l'ignorance, et qu'en plus, maintenant, on peut faire des choses qui étaient interdites dans le temps, mais parce que maintenant, on sait. Et nous voyons notamment fleurir beaucoup, beaucoup d'idées préconçues dans le domaine de la sexualité. Alors, comme dit Salomon, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et tous ceux qui vous disent « non, mais maintenant on sait », ben non. Si nous lisons la Bible, nous voyons que déjà dans le temps, il n'aura fallu que 6 générations pour avoir les premiers signes d'une sexualité dépravée. La Bible nous dit que Lémec, 6e génération après Adam et Ève, a connu 2 femmes. On voit déjà tout doucement ce glissement qui s'opère vers le péché dans la sexualité. Alors pour être tout à fait clair, j'aimerais rappeler ce que c'est le péché, sinon on va encore m'accuser de choses que je n'ai pas dites. Donc le péché, le péché, c'est louper ce que Dieu voulait pour nous. Nous avons désobéi à Dieu, et ça depuis Adam et Ève, en mangeant le fruit qui était interdit de toucher. Et là, nous avons loupé le bonheur et la joie que Dieu nous réservait. Et Dieu leur a dit, « Ok, pas de problème, tu veux être libre, tu veux te libérer et faire toi-même tes propres choses, pas de problème, mais sache juste que le péché est là, tapis à ta porte, prêt à te dévorer. Alors si tu ne veux pas te faire dévorer par le péché, je te donne les commandements, les règles, les lois, afin que tu vives heureux. Mais si tu n'y arrives pas, sache que la conséquence, c'est la mort. Le péché te tuera. » C'est-à-dire un monde qui est éloigné de Dieu. Et croyez-moi, si Dieu ne tient plus le monde, alors nous sombrons dans bien plus de violence que ce que nous connaissons actuellement déjà là. Et le péché, c'est ne pas dire « Ah, c'est pas bien ce que tu fais ». Non, c'est pas ça. Et je voudrais pas qu'on me comprenne mal. Le péché, ce n'est pas dire « Berk, je vais te fouetter parce que tu as fait quelque chose de mauvais ». Non. Le péché, c'est simplement le fait que nous n'avons pas réussi à faire les choses justes qui te donnent la joie et la bénédiction de Dieu. Et moi, je ne te fouetterai pas pour ça. Au contraire, je pleurerai avec toi parce qu'on n'a pas su souvent faire le bon choix. Alors, au commencement, alors je ne sais plus comment j'en suis dans ma slide. Voilà, au commencement, la Bible, le mariage et le sexe. J'aimerais que ça soit bien clair, le sexe, finalement, c'est génial. C'est une bénédiction de Dieu. On a pu entendre des fois des discours qui disaient « Non, le sexe, c'est sale, il ne faut surtout pas, éloignez-vous de tout ça, ou il ne faut pas qu'on en parle. » Non, ce n'est pas tout à fait vrai, et Dieu a créé l'homme et la femme en leur donnant la sexualité pour deux raisons. Et on le voit dans Genèse 1 et dans Genèse 2. Première raison de la sexualité, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, Genèse 1, 28. Voilà l'un des tout premiers commandements que Dieu nous donne. Alors, quand on dit soumettre la terre, c'est essentiellement pour dire qu'on doit être des architectes de cette création, savoir l'embellir, la guider. Tout simplement, si on veut avoir un terme un peu plus moderne, on pourrait dire que Dieu, il voulait qu'on soit des paysagistes designers. Hein ? C'est chouette, ça. Et pour cela, nous devions remplir la terre. Et la deuxième raison de la sexualité, on la trouve dans Genèse 2. Les différences entre les sexes sont présentées sous un autre angle. Adam est créé en premier. Mais il n'est pas bon qu'il soit seul, car par lui-même, il est impossible d'atteindre le but par lequel Dieu l'a créé, remplissait la terre. Et pour y remédier, Dieu crée la première femme. Contrairement aux différents animaux qu'Adam vient de nommer, la femme lui correspond parfaitement. Voici bien celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme, Genèse 2, 23. Tout fonctionne très bien, leur ressemblance comme leur différence. Elle est conçue à partir de lui, de la même matière, tout en étant différente de lui, femme et non homme. Et c'est une fois réunis ensemble, sexuellement, que cette union les unit profondément. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne feront plus qu'un. Genèse 2, 24. Ici, la relation sexuelle vise à exprimer et renforcer leur unité, leur union. Genèse 1 et 2 montrent ainsi que Dieu est favorable à la sexualité et on voit aussi que le sexe est créé pour le mariage, pour cette unité. Il y a quelques semaines en arrière, je discutais avec un collègue à moi, il m'emmenait en train, et puis je lui disais « Oh, je descends à Brumath », et il sait que je n'habite pas à Brumath. Et tout de suite, dans son esprit, il me dit « Ah ouais, tu vas voir une fille, hein, c'est ça ?» Non, pourquoi tout de suite un esprit tordu comme ça? Non, je ne vais pas voir une fille puisque j'aime ma femme et je veux respecter ma femme et c'est parce que je l'aime aussi que je ne vais pas voir d'autres filles. Et là, il me répond un truc, je suis resté bouche bée parce que je ne savais pas trop quoi répondre tellement il m'a désarçonné à ce moment-là. Il me dit, mais moi aussi j'aime ma femme, mais ça ne m'empêche pas d'aller voir ailleurs. Non, on n'aime pas sa femme comme on aime manger du chocolat. On n'aime pas sa femme comme on aime une série télé. Non, on aime sa femme et parce que je veux, parce que je suis prêt à me sacrifier pour elle, jusqu'à la mort pour elle. Je suis prêt à me sacrifier dans mon travail pour elle. Je suis prêt à me sacrifier dans mes idées et dans mes concepts pour qu'elle puisse grandir toujours plus vers Dieu et savoir moi me remettre en question. Je suis prêt à sacrifier toutes les autres filles pour ma femme. C'est ça le véritable amour. L'autre, celui de mon collègue, c'est juste de la consommation. Ce n'est pas l'amour que Dieu veut pour nous. Car l'amour se partage, il n'est pas égoïste. Et on n'aime pas juste pour soi. La sexualité est bonne si elle est dans le cadre du mariage. Et j'ai beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à attendre le mariage. Et c'est une catastrophe. Et je vous explique pourquoi. C'est l'image que je donne à mes jeunes quand je parle de ce thème-là. Imaginez que le mariage, c'est comme un feu. Vous savez, on est en hiver, il fait gris, c'est un peu déprimant. On rentre à la maison et on a le feu qui est allumé dans la cheminée. Et c'est cool, ça nous réchauffe, c'est agréable. C'est version cocooning, vous savez. On s'installe près du feu avec un livre et on sent les bons effets du feu. Et c'est pareil pour le sexe. Néanmoins, si nous voulons nous libérer des règles de la sexualité, c'est comme si vous décidez « Non mais là, le cadre de la cheminée, ça va pas. Ça suffit. Je veux me libérer de ce cadre. Il est temps que je libère ce feu et que je le mette au milieu du salon. » Vous comprenez tout de suite que nous sommes libres de mettre le feu où nous voulons. Et nous pouvons le sortir du cadre de la cheminée, de son cadre du mariage. Mais si nous faisons ça, nous mettons le feu à la maison. Et mon collègue, je lui ai répondu, oui, ben, c'est pour ça que ta femme est partie. C'est parce que tu es allé voir ailleurs. Il a mis finalement le feu à sa maison, à lui-même, car il a voulu sortir le feu du cadre de la cheminée. Et quelle folie! C'est curieux, hein? Parce que on nous dit souvent, ouais, mais c'est des vieilles idées, ça, arrête, la Bible c'est vieux, maintenant on sait tout ça. Mais quand on regarde les scientifiques, ce qu'ils nous disent, on voit des choses aussi troublantes et on voit des choses arriver comme ça que les scientifiques nous donnent qui sont assez troublants. Et je sais que les jeunes ont vu ça avec Sébastien la dernière fois au groupe de jeunes. Les scientifiques ont découvert il y a quelques années en arrière le microchimérisme. Ça vous parle les jeunes? Oui, ok, ça leur parle encore, c'est bon. Alors je vais vous raconter ce que c'est le microchimérisme que les scientifiques ont découvert il y a quelques années. C'est le fait que chez certaines femmes, les scientifiques ont découvert que dans leurs cellules ou dans leur ADN, on avait des traces d'ADN masculin. Waouh! Mais d'où ça sort? Et ils supposent, alors c'est encore à prendre avec des pincettes parce qu'on est encore en plein dans les études, mais ils supposent que les femmes reçoivent cet ADN quand elles sont enceintes d'un garçon. Mais c'est possible, et c'est fortement possible aussi, que les femmes reçoivent cet ADN à travers les relations sexuelles. Et vous savez quoi? On a trouvé de l'ADN féminin chez les hommes. Alors, on est toujours encore dans les études, hein, on prend ça avec des pincettes. C'est des fois encore un peu controversé, mais ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ils ne feront plus qu'un, homme et femme. Ce n'est pas une image que Dieu nous donne, c'est une réalité. Notre corps, mon corps, appartient à celui de ma femme et vice-versa. Pourquoi on ne peut pas faire confiance simplement à Dieu? Pourquoi sommes-nous toujours obligés de ne pas croire à ce que la Bible nous dit, mais il n'y a rien de neuf sous le soleil? on vient avec des nouvelles théories pour nous libérer de Dieu et qu'on soit notre propre Dieu. C'est moi qui décide ce qui est bien et c'est moi qui décide, on va quand même pas décider pour moi et surtout pas pour ma sexualité. Et je ne veux pas mettre Dieu au milieu. Je ne veux pas qu'un Dieu me dise quoi faire. Oui, mais le problème, c'est qu'on est en train de mettre le feu à la maison, à son propre corps. Et Emmanuel Menlein, un évangéliste qui est avec moi chez France Évangélisation, va même plus loin en disant que le fait de coucher avec quelqu'un lie aussi nos âmes. Alors, c'est difficile à prouver, hein. La Bible n'en parle pas vraiment, mais il a vu des choses, et des choses des fois qui sont assez troublantes aussi. On ne fera plus qu'un. Des nouvelles théories, on en trouve plein. Il suffit simplement de prendre toutes les lettres de LGBTQIA+. Oui, parce que maintenant, ils ont rajouté le A dedans. Ça, c'est pour les asexuels, ceux qui n'ont pas d'attirance sexuelle ou qui ne veulent pas de sexe. Et on se retrouve avec plein de théories. Et chaque lettre nous donne une théorie, mais qui ne correspond pas forcément à ce que la Bible nous dit et qui nous éloigne toujours encore un peu plus de Dieu. Et parmi toutes les lettres, il y a le L et le G pour les lesbiennes et les gays, c'est-à-dire les homosexuels. Et on va parler un peu, et on va un peu en parler justement, car souvent les non-chrétiens nous disent « Non mais Dieu est homophobe ». Et la dernière fois, j'ai encore vu un chrétien qui me disait « Purée, je me balade, j'annonce Jésus à une personne qui est homosexuelle » et tout de suite elle me dit « Non mais Dieu, il est homophobe ». Et d'après vous, est-ce que Dieu est-il homophobe ? Oui, oui, non, peut-être, on ne sait pas. C'est dur comme question. Homophobe, ça veut dire qu'il n'aime pas l'homosexuel. Non, oui ? Difficile ? Non ? Allez. On va en parler, justement, on va en parler. Car souvent, les non-chrétiens, ouais, ils nous disent hein, que « Ah, mais Dieu, il n'aime pas les homosexuels ». Mais pour bien définir les choses, il serait juste d'utiliser les bonnes expressions. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, moi, je préfère plutôt dire les personnes qui ont des attirances envers le même sexe, ou alors qui ont un sentiment justement homosexuel, vous voyez. Et parce que dans notre culture occidentale, et ça il faut un peu le comprendre, parce que dans notre culture occidentale, une personne qui éprouve des sentiments homosexuels, eh ben, il est forcément gay ou lesbienne. Mais ce terme évoque bien plus que l'orientation sexuelle d'un individu, c'est ça, hein ? Il décrit plutôt une identité et un style de vie. Et quand vous avez les personnes qui se disent justement homosexuelles, lesbiennes ou gays, c'est qu'ils sont attirés par le même sexe, mais le truc, c'est que c'est toute une identité qu'ils se fabriquent. Elle sous-entend qu'en plus d'être attiré, ben, il y a toute son orientation sexuelle qui la définit complètement. Mais il faut reconnaître que cette attirance sexuelle n'est pas essentielle à mon identité. Ça fait partie de ce que je ressens, mais dans le fond, ce n'est pas ce que je suis. Je ne suis pas limité à ma sexualité. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait toujours bizarre cette revendication par rapport à notre orientation sexuelle. C'est comme si maintenant je venais me présenter chez vous et je vous dis « Bonjour, je m'appelle Alexandre et je suis hétérosexuel ». C'est bizarre, non ? Mais j'ai rencontré des gens comme ça, hein, qui me disent « Bonjour, je m'appelle tel et tel et je suis gay ». Ouh, super ! Mais ce n'est pas ton identité, ta sexualité. Ou alors, je vous donne un autre exemple, c'est comme si maintenant, je vous dis que j'aime manger de la viande. Un repas sans viande, ce n'est pas un vrai repas pour moi. Mais cela ne fait pas de moi une identité de carnivore. C'est pas là ma principale caractéristique. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis hétérosexuel et carnivore. C'est bizarre, non ? Hein ? On est d'accord. Ça fait partie de moi, mais ce n'est pas l'essentiel de mon identité. C'est pour cela que je préfère dire que certaines personnes éprouvent des sentiments homosexuels ou de l'attirance envers le même sexe. Vous comprenez ? Et oui, cela existe. Il y a des gens qui ont des attirances pour les personnes de même sexe. Ça arrive. Et je sais que nous, chrétiens, ça peut être dur d'entendre cela. Mais finalement, on va réfléchir. Nous, chrétiens, on a l'impression que le péché, on a l'impression que c'est un péché, justement, ça, hein, et que, c'est-à-dire qu'on a loupé ce que Dieu voulait pour nous et que c'est le péché le plus grave qu'il puisse exister. Ben, non. Ça reste un péché parmi tout plein d'autres, mais pour moi, le péché le plus grave, c'est de ne pas obéir aux deux commandements que Jésus nous donne. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain. Bon, autant vous dire que, respecter ça, je pêche beaucoup, et je désobéis beaucoup. Je loupe souvent ma rencontre avec Dieu et avec les autres, et j'ai du mal à respecter ces deux commandements. Et être attiré vers les personnes de même sexe n'est pas un péché. Et je vais vous le faire autrement pour que vous puissiez comprendre aussi ça, parce que je sais que sinon ça va être compliqué. Moi-même, je ne suis pas attiré par les hommes, je suis attiré par les personnes de sexe opposé. Est-ce que ça fait pour moi partie d'un péché ? Ben non. Si je ne commets pas d'adultère et si mes pensées honorent Dieu et ma femme, ce n'est pas un péché. Mais je reste inévitablement attiré par les femmes. C'est ma croix que je dois porter. Et une personne qui est attirée par quelqu'un du même sexe, c'est exactement la même chose. C'est sa croix qu'il doit porter aussi. Et c'est là que je voudrais vous mettre en garde, Église, communauté, car que faisons-nous justement des personnes qui sont attirées par le même sexe ? Si nous sommes lucides avec nous-mêmes, et je le sais, je suis attiré par les femmes, cela veut dire que je mets en place des mesures pour que je ne tombe pas, c'est ma croix à porter, et je ne suis pas persuadé qu'ici-bas, je serai un jour guéri pour ça. Mais vous, Église, vous pouvez m'aider en priant pour moi, par exemple, mais aussi en devenant un confident avec moi pour qu'on puisse partager mes luttes et mes détresses. Et pour certains, leur croix, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est l'argent, c'est les personnes du même sexe ou du sexe opposé. Vous comprenez ? Si un jour un pasteur venait prendre un poste chez nous, par exemple, et qui nous dit « Voilà, moi, j'ai des attirances homosexuelles. » Qu'est-ce qu'on fait ? On le prend ou on ne le prend pas ? S'il sait mettre ses barrières, ce n'est pas plus grave qu'un pasteur qui a des attirances hétérosexuelles. Dieu n'est pas homophobe. Bien au contraire, il sait où tu en es dans tes désirs les plus profonds. Il sait avec quoi tu luttes et il te dit « Tiens bon, garde les yeux rivés sur moi, prends mon amour, pas celui d'un homme ou d'une femme, mais mon amour est plus grand, plus puissant et plus énorme que n'importe quel amour qu'on puisse te donner. » Alors si ce matin tu as des luttes, n'importe lesquels, à travers l'alcool, la drogue, l'argent, le sexe opposé ou le même sexe, viens pour qu'on puisse prier pour toi et que, comme la Samaritaine, tu sois rempli de cette eau vive. On se souvient que la Samaritaine, elle avait plusieurs hommes dans sa vie et aucun n'a su la combler autant que Jésus. Jésus, cette eau vive, capable de t'aimer. Jésus, lui, il a vécu également des luttes, et croyez-moi, c'était bien plus violent. Et il sait ce que tu vis. Viens à lui. Il s'est sacrifié pour que tu puisses vivre. Alors fais le pas. Accepte qu'il dirige ta vie, y compris ta vie sexuelle. Accepte son sacrifice pour qu'il parce qu'il t'aime tellement fort, d'un amour qu'aucune autre personne ne pourra te donner. Soyez lucide avec vous-même. Si vous luttez avec quelque chose qui vous pourrit la vie, venez nous voir, ne restez pas seuls. Et vous, communauté, si vous rencontrez des gens qui luttent, par exemple avec l'homosexualité, mais ça peut être avec plein d'autres choses, acceptez-les comme un frère, comme une sœur, prêt à lutter avec eux dans la prière. Ne reste pas seul, car le péché est tapis à ta porte. Il est prêt à te dévorer. Viens partager tes luttes. Malheureusement, certaines personnes et certaines églises ont confondu notre amour terrestre avec l'amour de Dieu et malheureusement, ils poussent les gens à commettre des actes que Dieu réprouve. Il n'y a qu'un seul chemin pour venir à Jésus et malheureusement, des fois, nous avons envie de prendre un autre chemin en en disant « ça va le faire, ça va le faire ». Celui de mon désir. Non, la Bible est claire sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et l'homme n'est pas fait pour être avec un autre homme, ni la femme pour être avec une autre femme. Sinon, Dieu aurait créé un autre homme tout de suite. Mais l'homme et la femme sont tous deux créés pour être ensemble dans le cadre du mariage. La parole de Dieu est explicite. Si nous honorons la Bible, Nous devons adhérer à ce qu'elle enseigne sur ce sujet. Il est inutile de prétendre croire en la Bible, puis de rejeter certains enseignements comme nous le souhaitons. Dans ce cas, on définit les règles nous-mêmes et on met Dieu de côté. Et la Bible interdit toute activité sexuelle en dehors du cadre du mariage hétérosexuel. Ne sortez pas le feu de la cheminée. On ne parle pas que de l'homosexualité ici. Hein. C'est vraiment toute activité sexuelle en dehors du mariage hétérosexuel. Et je sais que certaines personnes ont une croix à porter un peu plus lourde encore, car ils ne pourront pas se marier avec quelqu'un du sexe opposé tellement ils ne sont pas du tout attirés par ces personnes-là. Et mon dernier point n'est pas évident à comprendre, surtout dans notre société ultra-sexualisée où tout est fait pour que tu sois heureux dans ta sexualité et épanoui avec quelqu'un d'autre. Mais en réalité, le célibat est une bénédiction également. Pour certains, cela s'impose, car ils ne seront pas attirés par d'autres, par du sexe opposé. Pour d'autres, c'est une croix à porter, une lourde croix. Mais nous luttons tous avec quelque chose. Et je voudrais vous encourager, vous, célibataires, votre célibat est une bénédiction de Dieu. Cela peut sembler des fois un fardeau, ça peut l'être, mais prenez-le comme une bénédiction. La Bible nous livre des aspects très positifs sur le célibat. Quelqu'un peut être célibataire à long terme pour diverses raisons, mais dans chaque cas, cela peut être un moyen de bénédiction pour vous-même, mais également pour les autres. Paul parle du célibat comme d'un don de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, 7, Paul dit « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit le don de Dieu » son don particulier, l'un le mariage, l'autre le célibat. Et le don du célibat doit être compris au même titre que le don d'un mariage. Le célibat, ce n'est pas juste l'absence d'un mariage, mais c'est une chose bonne et bénie en soi. Chaque condition, mariage et célibat, a ses hauts et ses bas, ses opportunités et ses défis, ses joies et ses peines. Jésus lui-même était célibataire, ce qui est très révélateur. Il est la personne la plus humaine et la plus épanouie qu'on ait jamais vue. Son célibat ne l'a pas rendu moins humain, et personne n'est moins humain à cause de cela. Le mariage, malgré toutes ses bénédictions, ne garantit aucunement l'épanouissement personnel et individuel, ou même du couple. Le célibat présente certains avantages et Paul affirme une chose évidente. Les célibataires s'épargnent certaines souffrances dans leur vie. la vie maritale et familiale peut être parfois difficile, non? Je sais pas, vous, ceux qui sont mariés, qui ont une famille, hein? Ce que je veux dire, c'est que le fait que tu sois célibataire te permet de mettre toute cette énergie dans autre chose que de la famille, les enfants, les devoirs, l'éducation, et j'en passe. Et Paul rajoute quelque chose d'important, le célibataire est moins partagé dans son engagement envers Dieu. Les célibataires ont bien souvent plus la capacité à construire des amitiés et une plus grande flexibilité dans leur mode de vie. Ils ont aussi cette liberté de servir dans bien plus de ministères que leurs amis mariés. Moi, je ne sais pas vous, mais aujourd'hui, je suis comme un célibataire avec mes 3 enfants parce que Laetitia est partie pour une retraite. Eh bien, croyez-moi, je galère, je transpire, je cours dans tous les sens. C'est pour ça que je suis fatigué aussi. Et le pire, c'est qu'elle part comme ça, Laetitia, elle part 3 semaines, enfin pas 3 semaines, c'est 3 week-ends de suite. Ouh, comment je vais faire, Seigneur? Oui, il y a vraiment des fois toute cette énergie qu'on dépense pour les enfants. Et un jour, je suis allé voir un ami à moi et je lui dis, oh là là, comment je fais? Quand les enfants étaient en plus bas âge, je lui dis, mais j'arrive pas à lire ma Bible, j'arrive pas à prier, et j'aimerais bien, mais je peux pas. Une fois que les enfants sont réveillés, la journée a commencé. Et quand les enfants sont couchés, ben, je rattrape tout ce que je n'ai pas pu faire. Comment je peux faire? Et là, mon ami, il me dit, oh, tu verras, quand ils sont grands, ça passera. Quoi? Non, mais moi, je veux un conseil maintenant, moi. Alors oui, il n'était pas de très très bons conseils. Et j'ai d'autres amis qui étaient de meilleurs conseils, et on a mis des choses en place dans le couple et dans la famille, justement, pour éviter d'être débordé. Mais c'est, voilà, vous, célibataires, combien c'est important aussi, parce que vous n'avez pas non plus cette charge, et l'histoire de l'Église compte de nombreux membres qui ont été célibataires à vie, tout en étant une grande source de bénédiction pour le peuple de Dieu et le reste du monde. Et certains grâce à leur activité missionnaire, d'autres par le biais du ministère dans l'Église, d'autres encore grâce à leur fidèle amitié et le soutien apporté aux autres. Et quel honneur d'être utilisé de cette manière. Mais comme pour les luttes de chacun, ne restez pas seul. Venez en parler pour qu'on puisse également prier pour vous, qu'ensemble nous puissions grandir toujours plus avec Dieu. Amen.